Bonjour. En introduction, je lis dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9, le verset 35, et au chapitre 11, les versets 2 à 6. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. Or, dans sa prison, Jean avait entendu parler de ce que faisait Jésus. Il envoya deux de ses disciples lui demander « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit « Allez rapporter à Jean ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. » Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Es-tu celui qui doit venir ? C'est la question lancinante et angoissée, remplie de doutes et d'incertitudes, que Jean-Baptiste se décide à poser à Jésus. Il ne peut même pas la lui poser personnellement, cette question. Il est obligé de charger ses amis de la lui transmettre de sa part. Car oui, Jean est en prison. Il croupit dans un cachot obscur, à la merci de la volonté du cruel Hérode et de sa famille. La grande lumière du désert, les bords sablonneux du Jourdain, dans l'eau de laquelle il baptisait le peuple d'Israël, les exhortations à la repentance, tout cela est désormais à mettre au passé. Même le baptême de Jésus, au cours duquel il a vu la colombe de l'Esprit-Saint descendre sur la tête du Messie, même la voix de Dieu qui s'est fait entendre à ce moment précis, cette voix qui a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection », rien de tout cela ne parvient à lui redonner courage. Tout lui paraît désormais lointain, pâli, irréel. Et tout s'est comme stoppé devant la dure réalité du présent, à savoir que moi, Jean, je suis dans la nuit la plus totale, hanté par mes doutes et mes incertitudes. Jésus, si tu es celui qui doit venir, pourquoi ne viens-tu pas me délivrer? Seuls les murs se font inlassablement l'écho de ces questionnements, ne lui apportant aucune réponse. Il faut bien sûr comprendre que les doutes de Jean portent d'abord sur le fait qu'il croyait, comme d'ailleurs une grande partie du peuple d'Israël, que le Messie attendu allait rétablir la royauté de David, qu'il remonterait sur son trône vacant depuis si longtemps et qu'il chasserait avec puissance l'occupant usurpateur, dont bien sûr Hérode, le tyran odieux. Et beaucoup parmi le peuple n'ont d'ailleurs jamais reconnu leur Messie dans le modeste charpentier de Nazareth. Mais la question de Jean sous-entend une interrogation plus personnelle, plus douloureuse, concernant son propre sort à lui, lui dont la vie a soudain dramatiquement basculé. Et si grand et si courageux qu'ait été Jean-Baptiste, le voilà confronté à ses propres limites. La passivité de Jésus face à sa détresse, sa non-intervention en sa faveur, le déstabilise et le pousse à remettre toute sa confiance en question. Es-tu celui qui doit venir ? Et franchement, la réponse qu'il va recevoir de Jésus a de quoi le dérouter encore davantage. Elle ne contient aucun message personnel, ni aucun encouragement qui lui laisserait penser qu'il n'est pas rayé du monde des vivants. En effet, ses amis, de retour après leur visite à Jésus, lui rapportent juste ce court passage d'Ésaïe, le prophète, concernant le ministère du Messie lorsqu'il viendrait. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et c'est tout. Car nous le savons, Jésus a sciemment omis de citer la fin de la citation. Il a passé sous silence ces quelques mots qui, justement, contiendraient pour Jean une promesse d'espoir, de libération. Ces quelques mots-là. L'Esprit de l'Éternel est sur moi pour proclamer aux prisonniers la délivrance. Jean-Baptiste peut dès lors considérer qu'il a la réponse qu'il a demandée et qu'il va devoir s'en contenter. Jésus n'interviendra pas pour le libérer. Il pense désormais qu'il va devoir affronter seul l'angoisse, la souffrance d'une mort tragique et injuste. Jean-Baptiste a probablement été complètement ébranlé et désemparé. Mais peut-on vraiment croire que Dieu l'a laissé, qu'il l'a abandonné à son sort, sans réconfort aucun? Non, bien au contraire. Le Seigneur s'est fait proche. Il s'est tenu tout près de Jean, dans sa prison obscure, là où il était plongé dans le doute et la souffrance. Et avec amour, il l'aura conduit à voir les choses différemment, d'une manière plus profonde. Au-delà de son horizon bouché, Jean-Baptiste va acquérir une certitude nouvelle quant à la compassion de Dieu et la personne de Jésus. Non, moi, Jean, je ne me suis pas trompé. Jésus est bien celui qui doit venir, notre Messie, le Fils de Dieu. Et il fait route avec moi, quoi qu'il arrive. L'espérance s'est levée dans le cœur de Jean. Elle ne s'éteindra plus jusqu'à sa mort. Je me suis alors posé la question, est-il possible de faire un rapprochement entre Jean-Baptiste et nous? Peut-on vraiment faire un parallèle entre lui et nous, les chrétiens d'aujourd'hui? Eh bien, il me semble que oui. En effet, ne nous sommes-nous pas, nous aussi, retrouvés un jour ou un autre, comme lui, enfermés dans une sombre prison, dans laquelle les soucis, les doutes, les angoisses, la maladie ou le deuil nous plongeaient dans une nuit profonde? Ne nous sommes pas, nous aussi, retrouvés prisonniers de murs si épais que plus personne ne semblait entendre nos cris? Même pas Jésus qui tardait tellement à nous répondre. Seigneur, avons-nous dit, es-tu vraiment mon bon berger, mon sauveur, en qui j'ai mis toute ma confiance? Alors, pourquoi permets-tu que je me retrouve dans le sombre cachot de l'angoisse, de la maladie, du chagrin ou du deuil? M'as-tu abandonné? M'as-tu oublié? Ne me suis-je pas trompée à ton sujet? Lorsque notre vie traverse une crise, lorsque nos certitudes sont ébranlées, lorsque tout se défait autour de nous, il est parfois bien difficile de comprendre par où nous devons passer. Et force nous est de constater que le Seigneur ne nous apporte pas des réponses et des solutions toutes faites, alors que nous en aurions tellement, tellement besoin. Comme à Jean-Baptiste, le Seigneur ne nous dit pas tout. Avec nous aussi, il passe des phrases sous silence. Il nous laisse avec des versets incomplets. Oui, cela lui arrive avec nous aussi. Et lorsqu'il apporte une réponse, elle est parfois bien différente de ce que nous espérions ou de ce à quoi nous nous attendions. Mais Dieu sait où il nous conduit. Et Jésus, son Messie, fait route avec nous. Il éclaire nos pas d'une lumière douce et diffuse qui va peu à peu nous rendre attentifs à sa présence à nos côtés. Et cette lumière, comme l'étoile du matin, grandira et luira de plus en plus jusqu'à chasser la nuit de notre prison. Alors, c'est avec les yeux de notre cœur que nous verrons désormais le Christ qui fait route avec nous pour toujours. Amen.
Des questions, nous nous en posons tous. Pourquoi tant de malveillance? Pourquoi tant de violence? Je pense aux victimes, surtout aux enfants à qui on inflige tant de souffrances, à ceux qui subissent tant d'injustices. La liste est longue. La liste des questions est longue. Pourquoi n'interviens-tu pas? Pourquoi fais-tu silence? Où es-tu? Et le doute s'insinue en nous. Est-ce qu'il y a un sens à tout cela? Je n'en vois pas. Je n'ai pas de réponse, si ce n'est. Dans certains pays, parce qu'ils aiment Jésus, des enfants, des femmes, des hommes sont emprisonnés, maltraités, battus, torturés, parfois mis à mort. Pour quelques sous, Judas vend Jésus. Un paysan laboure son champ, il sème son blé. Le blé tout doré s'élève vers le ciel. Un citadin cultive ses légumes, ses salades. Il en est tout fier. Un nuage de grêle arrive, la grêle détruit tout. Le champ, le jardin. Dans un jardin, Jésus ressent de la frayeur et de l'angoisse. Une sueur couleur sang coule sur son visage. Il te supplie d'éloigner cette coupe de douleur. Tu envoies un ange, mais tu ne le sauves pas. Ses amis dorment. Solitude. Il est un long fleuve mouvant, un fleuve de souffrance, un fleuve de migrants, d'exclus, de bannis. La guerre n'a fait d'eux qu'un grand cri. Jésus, ton fils, ton unique, est arrêté. Et par trois fois, Pierre, son ami, le renie. Ils sont nés handicapés, ils sont nés avec de drôles de voix dans la tête. Ils sont autres. Les rires, les sarcasmes sont leur lot quotidien. Le rejet est gravé dans leur chair. Des hommes frappent Jésus, l'insultent. Ils se moquent de lui. Le méprise. Le mensonge habite leur bouche. Ils le salissent, crachent sur lui. Ceux qui ne se remettent pas en question, ceux qui se croient grands, intouchables, ceux-là te questionnent. Es-tu le roi des Juifs? Le Fils de Dieu? Et Jésus répond, vous le dites, je le suis. En ton nom, ils font sauter des bombes, ils tuent sans discernement, ils tuent hommes, femmes et enfants. Colère et haine les habitent. Ils habillent Jésus de rouge, crèvent la chair de sa tête à coups d'épines. Ils lacèrent son dos à coups de fouet. Ils veulent tuer la vérité. Ils préfèrent libérer un meurtrier. Le poids de leur peine est immense. Ceux qu'ils aiment sont partis. D'une maladie, d'un accident, d'une mort violente. C'est un enfant, un mari, une femme, une sœur, un frère, un ami. Ils portent la croix lourde de la cruauté du monde. La croix le porte, lui, l'innocent. Les clous couleur rouille le retiennent au bois. Le goût âcre du vinaigre n'étanche pas sa soif. Tous les jours, des enfants meurent de faim. D'autres meurent sans savoir pourquoi. Des enfants sont vendus pour que des hommes puissent satisfaire à moindre prix leur pulsion. Tout devient sombre. Dans le temple, le rideau se déchire. Jésus crie d'une voix forte. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Toi, le ressuscité, tu es lumière. Lui se déguise en ange de lumière. Lui nous séduit, nous éblouit, il nous trouble la vue, et nous ne savons plus où nous en sommes. Toi, tu éclaires notre chemin. Tu nous montres notre chemin. Le chemin étroit et parfois escarpé. Un chemin sur lequel tu marches. Un chemin où tu fais route avec nous. Lui nous maintient dans le désespoir. Il nous fait douter. Quel est ce Dieu qui n'intervient pas? Ce Dieu qui ne rend pas justice, qui permet le mal. Et parfois nous abondons dans son sens. Notre confiance en toi se fissure. Toi, tu ne nous leurres pas. Tu ne nous mens pas. Tu ne nous as jamais promis que tout irait bien dans le meilleur des mondes, que nous n'aurions pas de problème, que nous ne serions jamais malades. Tu as promis que dans toutes les circonstances de nos vies, tu serais là. Dans les moments de crise, tu nous donnes ce qu'il faut pour rebondir. Avec discrétion, tu nous aides à nous relever. Lui, c'est la haine personnifiée. Il aime faire mal. Il aime faire souffrir. Il se sert de cette souffrance pour nous faire douter de toi, nous séparer de toi. Quand il est réussi, il s'en réjouit et s'en frotte les mains. Toi, tu détestes le mal. Tu ne le permets pas. Si c'était le cas, cela voudrait dire que tu le cautionnes. Et ce n'est pas dans ta nature. Toi, tu es l'amour personnifié, un amour plein de tact, un amour fort, dense et doux à la fois. Et pour nous faire comprendre comment aimer, tu nous parles en parabole. Tu parles d'un homme blessé par des brigands, de personnes qui passent à côté de lui avec indifférence, d'un étranger qui s'arrête. Il fait ce qu'il faut pour qu'il soit soigné, le prend en charge. Il n'est pas fait mention de courir après les brigands ou de les contrer. Il est juste dit d'avoir compassion, de prendre soin des blessés de la vie. Je vais vous donner un petit témoignage. Quand j'étais petite fille, une personne m'a fait beaucoup de mal. Et je n'avais qu'une envie, c'était de me venger, de lui rendre la monnaie de sa pièce. Et puis, tu es venu mettre ta lumière en moi. Alors, je me suis mise à prier. Prier pour que toi, tu me venges. Et à ta manière, tu l'as fait. C'était lors d'un culte à Villars. Donc ici, j'étais là-haut. Tout à coup, j'ai vu cette personne devant mes yeux. J'ai ressenti pour elle un amour plein de douceur, une tendresse infinie. C'était un miracle. J'en étais toute bouleversée et ce moment m'a libérée. C'est ainsi que Dieu, entre guillemets, m'a vengée.